Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Dans les pays occidentaux, la moitié des mariages se terminent par un divorce. Des divorces parfois suivis d'un remariage. En France, 1,5 million d'enfants vivent dans une famille recomposée où le quotidien est parfois compliqué. Les conflits entre beaux-parents et beaux-enfants sont fréquents. Pas toujours facile donc de débuter une relation lorsque l'âme-sœur a déjà des enfants. Comment se faire accepter par ses bambins? Quelle place tenir par rapport à l'autre parent, celui qu'on appelle l'ex? Comment faire cohabiter les enfants nés de plusieurs unions? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Christophe Forêt, qui est psychiatre, psychothérapeute. Il vient de publier « Comment t'aimer toi et tes enfants, le défi de la famille recomposée ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Si vous avez envie de lui poser des questions, d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone Gladys Taverne, qui est psychologue à Port-au-Prince en Haïti. On retrouvera la chronique de Sylvie Hasbrook sur les émotions. Et pour terminer, c'est Catherine Solano exceptionnellement pour un vendredi que vous entendrez aujourd'hui.
RFI.
Docteur Christophe Forêt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Pourquoi ce livre? Est-ce que ça veut dire qu'en consultation, vous avez plein de couples qui se plaignent des beaux enfants?
Exactement. En fait, il y avait une logique. J'ai beaucoup travaillé sur le deuil du conjoint. Et donc, après le processus de deuil, les personnes ont pu souhaiter recommencer une aventure amoureuse, une vie amoureuse, et dans un remariage, etc. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec des personnes qui étaient dans des divorces difficiles, voire extrêmement difficiles, et qui après avaient le souhait de, comme tout un chacun, de recommencer une vie amoureuse. Et donc, de ces deux axes-là, je me suis retrouvé dans mon cabinet avec une tonne de témoignages de personnes qui étaient soit l'ex, soit le beau-parent, soit la belle-mère, beau-père, soit le père, soit la mère, avec des problématiques qui sont, au bout du compte, étonnamment similaires. Il y a des groupes de problématiques, et on retrouve comme ça, d'une famille à l'autre, quasiment des mêmes schémas qui se répètent, d'où l'intérêt, l'importance de porter à connaissance des gens ces schémas pour ne pas à chaque fois retomber dans les mêmes pièges et pouvoir reconnaître des problématiques spécifiques.
Et le piège principal, est-ce que c'est celui de la belle-mère, la marâtre, ou finalement celui du beau-père est aussi compliqué?
Pas du tout. Les problématiques sont vraiment égales. Il peut y avoir une entente parfaite entre par exemple, la belle-mère et le père, mais l'ex devient très toxique, par exemple. Ou alors, il peut y avoir une belle entente dans le couple, mais les enfants font vraiment un front extrêmement hostile par rapport à la nouvelle venue. Donc, il n'y a vraiment pas de point d'achoppement particulier. Mais c'est vrai, vous avez raison, la problématique belle-mère, beaux-enfants semble plus mise en avant.
Et le côté de la marâtre, à chaque fois.
Le côté de la marâtre, mais c'est un mot horrible, un marâtre.
C'est atroce. D'accord, je devrais pas le prononcer.
Alors, il paraît qu'il y a le mot parâtre pour le père, le beau-père, mais j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est surtout la marâtre. C'est vraiment il y a une image très négative reliée à la belle-mère, et c'est un poids supplémentaire.
On a eu énormément de témoignages sur Facebook, comme quoi cette problématique est absolument universelle, quel que soit le pays. Je vous propose d'abord d'entendre le témoignage de Gaëlle qui vit en France. Elle a 42 ans. Elle vit depuis 10 ans avec un homme qui a 48 ans aujourd'hui. Il avait deux garçons quand elle l'a rencontré. Ensemble, ils ont eu 3 enfants qui ont aujourd'hui 7 ans, 4 ans et 2 ans, et les deux fils issus du premier mariage ont aujourd'hui 22 ans et 14 ans, donc nettement plus grands. Ce sont des propos recueillis par Pauline Mocor.
Je me suis jamais sentie vraiment leur belle-maman ou leur maman de remplacement. J'avais plus le rôle de la compagne de leur papa. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse vivre plus régulièrement tous ensemble, c'est-à-dire vraiment une semaine sur deux. Là, j'ai toujours la sensation qu'ils sont en visite, qu'on met des petits plats dans les grands quand ils sont là. Et je trouve que c'est pas toujours vraiment ça non plus la vie, quoi.
Quelles conséquences ça a de mettre les petits plats dans les grands à chaque fois qu'ils sont là?
C'est-à-dire qu'il y a des fois, moi, je suis tendue parce que j'aimerais qu'ils puissent se comporter comme j'aurais voulu qu'ils se comportent si je les avais vraiment élevés moi-même, et qu'ils puissent être à la maison comme s'ils étaient vraiment chez eux. Et j'ai toujours pas cette sensation aujourd'hui.
Mais vous n'osez pas leur demander de suivre certaines règles que vous fixez?
Si, si, ça se fait petit à petit, mais ça a été un cheminement qui n'est pas venu tout de suite, quoi.
Vous aviez peur de quelque chose au début?
Oui, je pense qu'il y avait une peur inconsciente de ma part, qu'il se braque, que ça se passe pas bien entre nous. Mais en fait, tout ça, je pense, est un peu survenu aussi au moment où moi, j'ai eu des enfants. Et où du coup, je voulais faire attention à me comporter de manière égale envers mes enfants ou envers les enfants de mon mari.
Est-ce que vous avez mis du temps à vous l'autoriser, l'idée de, à votre tour, être mère dans cette famille ?
Oui. Oui, j'ai mis du temps parce que, au départ, moi, j'ai eu très, très peur d'avoir des enfants en me disant, on a trouvé un bon équilibre tous les quatre. Au bout de 2 années, quand j'ai eu des enfants, où il a fallu retrouver la place de chacun dans cette nouvelle construction familiale, quoi.
Ils ont réagi comment quand vous leur avez annoncé que vous alliez avoir des enfants avec leur père ?
Au début, ils trouvaient ça nul. Ils disaient, non, pas un de plus, pas encore. Et puis, finalement, il y a une très, très bonne entente entre ces 5 aujourd'hui.
Elle prend beaucoup de place, l'ex-épouse de votre mari ?
Alors, plus aujourd'hui. Petit, oui. Parce qu'effectivement, c'était déjà tendu de par le divorce. Et puis, la maman était très en colère et toujours dans une forme de rancune. Donc, effectivement, au début, elle prenait beaucoup de place. C'était toujours mon mari qui devait tout faire parce que de toute façon c'était lui qui était parti, donc c'est lui qui en baverait jusqu'au bout. C'est elle qui définissait les règles, et après ça peut être plus insidieux parce que ça peut être juste dans des phrases que les enfants vont dire, et quand vous les entendez, vous savez qu'elles viennent pas de leur bouche mais qu'ils répètent quelque chose qui a été dit à la maison.
Et comment vous vous êtes organisée pour circonscrire la place que prenait l'ex-femme ?
Ce qu'avait fait la maman, c'est qu'elle a, et toujours 10 ans après, elle avait instauré un échange avec cahier de liaison pour qu'il y ait toujours les infos pour les enfants, et il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et pendant un temps, au début, je le lisais avec mon mari, ce qui était, à mon avis, tout simplement une erreur. Donc ça, c'est vrai que j'ai complètement arrêté de m'impliquer dans cet échange-là. Parce que c'est leur histoire à eux, c'est leur rapport à eux. Et j'avais pas à m'en mêler.
Est-ce que vous avez pu vous sentir jalouse des enfants de votre mari ?
Oh, ça a bien dû m'arriver, oui. Devoir d'un seul coup prendre les vacances pendant les vacances scolaires, plus pouvoir partir en week-end en amoureux parce que quand il est en week-end, il a ses enfants, ce genre de choses. Oui.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Christophe Fauré, j'imagine que ce que vient de dire Gaëlle, c'est un exemple typique de ce que vous entendez dans votre cabinet.
Tout est dit. tout est dit. On a vraiment tous les soucis sont là. Et si on regarde vraiment bien au fond ce qui se passe, la problématique dans les familles recomposées, c'est la peur. La peur à deux niveaux.
Et la peur de quoi? De pas être aimé?
La peur de perdre le lien. Pour le père ou la mère, par exemple, de perdre le lien avec ses enfants. Pour l'ex, de perdre le lien avec ses enfants, si ses enfants arrivent à trop aimer l'autre belle-mère ou l'autre beau-père. La peur de perdre le lien et la peur de perdre l'amour. Et en fait, derrière ces peurs-là, se construisent tout ce que l'on voit dans la famille recomposée. Et une façon donc d'aborder les problèmes de la famille recomposée, c'est d'aborder du point de vue de la peur. Comment on prend conscience que dans tel comportement qui paraît extrêmement toxique ou extrêmement intrusif ou violent, où est la peur, c'est-à-dire où est le niveau de souffrance de cette ex et comment on pourrait la rassurer. Mais c'est vraiment au fil des entretiens avec les personnes, c'est vraiment ça qui ressort très très fort.
L'impression aussi qu'il y a une obsession, c'est la peur de pas être aimé par ses beaux enfants. Et est-ce que justement c'est une mauvaise idée de vouloir se faire aimer à tout prix parce que ça enlève une partie éducative ?
C'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas forcément une bonne idée non plus parce que ça veut dire qu'on se met une pression énorme sur quelque chose qui peut être un objectif complètement illusoire, complètement vain. Parce que les enfants, peut-être les enfants plus petits, je dirais les 4, 5, 6 ans, ils ont, entre guillemets, plus besoin d'une présence maternelle ou paternelle, enfin, du moins un cadre qui va les contenir. Ils ont donc un peu besoin. Pour les plus grands, ils ont absolument pas besoin de cette personne qui arrive dans la vie, dans leur vie, d'autant plus que avant l'arrivée de cette personne, on avait construit dans la petite cellule familiale avec papa ou maman un équilibre qui fonctionnait parfaitement bien. Et cette personne qui arrive et qui prétend exercer une autorité, on lui dit, mais qui tu es, toi, pour vraiment t'arroger le droit d'avoir une autorité ou un regard sur ce que je pense, ce que je dis, comment je m'habille. Donc il y a vraiment c'est tout l'enjeu de l'autorité et le partage de l'autorité au sein de la famille recomposée.
C'est ça un problème quand même d'éducation. On n'ose plus rien dire.
On n'ose plus rien
pour
dire.
Pas se faire détester.
Et pas perdre le lien. Et c'est pour ça que par exemple un père qui voit ses enfants tous les 15 jours par exemple. Il n'a pas forcément envie d'être derrière ses enfants, mais en exerçant la discipline ou en recadrant les choses, en disant il faut que tu fasses tes devoirs. Il les voit tellement peu qu'il se dit ok, on va lâcher les règles, on va lâcher la pression. Je ne veux surtout pas que mes enfants se braquent et n'aient plus envie de revenir me voir. Et sur
ça,
base
c'est une mauvaise
idée. C'est une super mauvaise idée. Mais sur cette base-là, il va lâcher les règles et sa compagne qui veut dire tu es trop laxiste. Hein, tu laisses tout aller à volo, vraiment. Et c'est elle qui se retrouve donc à essayer de mettre du cadre et un peu de discipline. Les enfants se braquent parce que ils estiment que cette personne n'est pas légitime à leur imposer quoi que ce soit. Et la compagne en veut à la fin du week-end au père parce qu'il n'a pas tenu le cadre en disant, mais il est trop laxiste. Qu'est-ce que c'est cette éducation? Vous voyez, c'est compliqué.
Quand on lit votre livre, en tout cas, on se dit, waouh, c'est compliqué.
On peut y arriver, hein. Il y a des jolis exemples. Il y a mille exemples très jolis, mais c'est compliqué. Il faut connaître les règles du jeu.
Et vos exemples très jolis, ce qui est intéressant, d'ailleurs, ils sont pas au moment l'enfance et l'adolescence, ils sont plutôt à l'âge adulte d'une reconnaissance de ce qui a été fait avant. Non, je me trompe en disant ça.
Non, pas forcément. J'essaie d'avoir accès à des enfants petits, des enfants ados, des grands enfants. En fait, j'essaie de faire un 360 degrés en abordant le vécu émotionnel de chaque protagoniste.
Je vous l'ai dit, hein, les auditeurs sont nombreux à avoir réagi sur Facebook, à nous avoir envoyé des messages. On a Nathalie qui nous appelle de Libreville au Gabon. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous, on vous écoute.
Très brièvement, j'ai rencontré celui qui est devenu mon époux aujourd'hui il y a une vingtaine d'années. On a eu une petite relation très rapidement. Il était à cette époque en couple avec la mère de ses enfants aujourd'hui. Ils se sont séparés il y a 10 ans à peu près et nous nous sommes mis ensemble. Et ils avaient 2 garçons déjà. Et disons que avec les rapports avec la maman ne se passent pas du tout bien.
Et pourquoi? Racontez-nous.
Ben moi, je l'ai déjà trouvée dès le départ très intrusive et je trouvais que ce comportement n'était pas légitime, partant du principe que c'était elle qui l'avait quitté et que leur séparation n'était pas due de mon fait. D'autre part, pendant leur séparation et avant que je me mette avec mon époux, elle lui permettait pas beaucoup de voir les enfants. Et quand elle a su que j'étais dans sa vie, bizarrement, les enfants sont devenus une part très importante de leur relation. Et disons que quand j'en parlais avec mon époux et quand j'en parle encore avec mon époux, il n'arrive pas à faire la distinction entre les rapports avec les enfants et les rapports avec la maman.
Et ça crée des tensions avec votre mari, du coup ?
Énormément. Mmh. Et depuis qu'on est ensemble, et disons que j'ai l'impression que moi, je dois à chaque fois baisser les chines pour que ça se passe bien. Je dois fermer les yeux, je dois pas faire de commentaires, je dois pas faire de critiques. Et ça me bouffe, moi. La situation la plus inconfortable de nous trois. Mais j'ai trouvé qu'il n'a pas su mettre des limites et protéger notre relation.
Oui, mais que se passe-t-il quand vous essayez de lui expliquer que la situation est insoutenable pour vous? Quelle est sa réaction?
Ça dépend. Disons que ça dépend vraiment des moments. Il y a des fois, il va me dire qu'il comprend, mais que de toute façon, il pense que c'est de la simple jalousie. Et moi, c'est ce que j'arrive pas à lui faire comprendre, que ce n'est pas de la simple jalousie ou de la peur de le perdre, c'est juste que ça me bouffe dans notre relation. Et
c'est intéressant.
Quand on s'est rencontré la première fois,
oui, allez-y.
On a gardé des rapports pendant 10 ans et elle n'a jamais su, je n'ai jamais fait en sorte qu'elle sache que lui et moi, on avait pu avoir une relation à cette époque-là. Donc je pensais qu'en retour, j'avais le droit qu'on respecte ma relation également avec cet homme-là.
Elle l'a peut-être senti, ceci dit, c'est ça. Oui. Mais, docteur Christophe Forêt, non, mais quel conseil à donner? On sent bien, et c'est l'exemple de Nathalie rejoint celui qu'on a pu entendre chez Gaëlle, et plein d'exemples dans votre livre, ce dialogue de sourds où le conjoint ne comprend pas la difficulté qu'il y a avec les beaux-enfants.
Oui. c'est vraiment complexe parce qu'il est parfois lui-même aveuglé par sa peur, comme on disait tout à l'heure, et sa culpabilité aussi d'avoir imposé tant à son épouse, peut-être une situation, si c'est lui qui est parti, ou à ses propres enfants d'avoir fait exploser, de par leur divorce, leur équilibre familial. Et donc, quand on est soumis à la force de la culpabilité, de la peur de perdre le lien avec ses enfants, peur que les enfants, par exemple, soient trop influencés ou instrumentalisés par la mère au point de plus avoir envie de venir le voir, on voit que ça limite considérablement les comportements. Donc, ce qui pourrait être utile, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de pointer et aider que la belle-mère aide à pointer au père les enjeux pour lui, les lignes de force en fait qui sont opérantes en lui et qui l'empêchent d'avoir une vision claire et objective de la situation. Et moi je crois aussi que si, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises auprès de patientes, si la souffrance, si la relation, la personne est tellement en souffrance qu'elle peut aussi faire mettre dans la balance le fait que il n'y a plus d'estime d'elle-même, il n'y a plus de respect d'elle-même, et qu'elle peut être amenée à reconsidérer sa place dans cette famille, et voire même sa place dans le couple. Et c'est une ligne de force qu'il y a, c'est, écoute, je veux bien que tu respectes tes enfants, ton ex-épouse, mais si à un moment donné,
je ne trouve pas ma place,
je risque de partir. Et ça rend compte d'ailleurs des échecs des familles recomposées. On sait qu'il y a à peu près entre 60 et 65% des personnes qui se remarient avec enfants, qui divorcent. Donc c'est vraiment une réalité. Et il ne faut pas hésiter à revendiquer son couple. Parce que la famille recomposée n'existe que parce qu'il y a le couple. Et s'il y a des lignes de force qui viennent abîmer ce couple alors qu'on donne la priorité aux problématiques des enfants ou avec l'ex, on abandonne le couple tout seul. Il n'est pas assez fort assez pour amortir toutes les attaques.
Et docteur Fauré, quand même, quand il y a ce dialogue de sourds, est-ce qu'il ne faut pas une intervention d'une tierce personne? Et c'est là que le psy est intéressant. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul.
Alors, le psy peut-être pas forcément, ça peut être utile, mais la médiation familiale, ça peut être extrêmement utile. Ça peut être aussi un tiers qui a la confiance des deux parties. Par exemple, s'il y a un ami ou une amie qui a plus de sagesse et de recul, voire même quelqu'un qui a vécu une famille recomposée, qui en a tiré des enseignements, mais peut-être quelqu'un de plus senior, de plus sage, qui va pouvoir aider à que la parole circule entre les deux, voire entre les trois ex. Nouvelle compagne ou nouveau compagnon et l'autre personne.
Nathalie, est-ce que vous avez cherché justement à vous faire aider ou pas?
Pardon?
Est-ce que vous avez cherché à vous faire aider?
Je suis allée voir une psychologue, je suis deux même.
Deux, waouh!
J'en ai discuté avec des amis, j'en ai discuté avec de la famille, mais disons que toutes les personnes extérieures comprennent ce que je ressens par rapport à différentes situations. Sauf mon époux.
Ouais. C'est pour ça, ça doit impliquer.
Et envoyer l'époux chez le psy. Et envoyer votre époux chez le psy. Non, ça n'a pas marché. C'est
en
difficile.
En fait, ce qui marche le mieux, c'est vraiment à trois. Vraiment qu'il y ait le couple présent et qu'il y ait une interaction à trois. Parce que sinon, c'est un dialogue de sourds. Parce que Nathalie, elle expose son point de vue et tout le monde y adhère. Mais son mari peut exposer son point de vue et tout le monde va y adhérer en comprenant vraiment les tenants et aboutissants de ses comportements. Mais c'est vraiment l'interaction entre les deux qui pose problème et leur pacte, leur union de couple qui, pour l'instant, n'est pas au premier plan. Et c'est pour cela que la famille est renoncée. Il n'y a pas un front uni entre eux. Et une tierce personne peut les aider à voir si ce front, ils peuvent le construire et s'il en vaut la chandelle.
Nathalie, j'espère que ces conseils du docteur Fauré vont vous aider. Merci beaucoup. On a Aimé qui nous appelle d'Abéché au Tchad. Aimé, bonjour.
Oui, bonjour, Claire.
On vous écoute, parlez bien près du téléphone pour qu'on vous entende.
D'accord, bon, j'ai fait un témoignage. Il y a ma mère qui avait porté
alors,
mon père.
Aimé, je suis désolée, je vais vous interrompre parce que vraiment la ligne téléphonique est pas bonne et on vous entend pas bien. On a le temps des 3 minutes d'information pour vous rappeler. On va essayer de voir s'il y a une ligne téléphonique un peu meilleure pour que vous puissiez nous exposer votre situation. Vous l'avez compris, donc on se retrouve dans 3 minutes juste après les infos. Toujours pour parler de ces familles recomposées, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des familles recomposées avec le docteur Christophe Auré, qui est psychiatre, psychothérapeute. Il vient de publier « Comment t'aimer, toi et tes enfants, le défi de la famille recomposée ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Nous avons au téléphone Gladys Taverne, qui est psychologue à Port-au-Prince en Haïti. Gladys Taverne, bonjour.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Bien, mais c'est surtout à vous. Merci beaucoup, beaucoup d'accepter d'intervenir. Il est très tôt chez vous, il est 4h du matin.
Oulala.
Oulala, exactement.
Oh Dieu, mais écoutez,
on trouvait que c'était intéressant d'entendre aussi justement une psy en Haïti. Gladys Taverne, les difficultés des familles recomposées sont-elles les mêmes en Haïti que ce qu'on a pu entendre, nous, en France, qu'on a pu entendre à Libreville?
Bon, écoutez, je pense que, premièrement, je voudrais souligner que ce terme n'est pas du tout en usage. Cependant, ça c'est dans les mots, mais dans les faits, je dirais que bon, c'est une situation qui est très liée à la société haïtienne.
Alors, Gladys Taverne, la ligne téléphonique est vraiment pas bonne, donc il faut que vous parliez vraiment très fort près du combiné pour qu'on vous entende bien. Ce que je comprends,
d'accord, je vais essayer.
Voilà, ça c'est mieux déjà là, effectivement. Ce que je comprends, d'accord, de ce que vous dites, c'est que c'est une situation qui existe, même si elle n'est pas reconnue comme existante, parce qu'on a du mal à accepter qu'il y a des divorces, c'est ça?
Pas forcément qu'il y a du mal à accepter qu'il y a des divorces, mais parce que la forme d'union qui est la plus courante en Haïti est le plaçage. Le mariage est minoritaire comme forme d'union.
Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas forcément de mariage, mais juste une vie en concubinage, c'est ça?
Il y a des mariages. Ce sont les classes les plus favorisées de la société et la classe moyenne qui y recourent. Mais dans les campagnes et dans les couches populaires, c'est davantage cette forme d'union libre qu'on appelle soit plaçage qui serait régi par le droit coutumier, soit le vivre avec qui est moins contraignant dans ce sens.
Mais du coup, il y a beaucoup de familles recomposées, de fait, même si on n'utilise pas ce terme-là.
Exactement, c'est ce que je voulais faire ressentir.
D'accord. Et quelles sont les plaintes là-dessus que vous entendez en consultation? Alors évidemment, vous voyez en consultation qu'une partie de la population, on imagine que c'est plutôt des familles aisées, mais quelles sont les plaintes les plus courantes par rapport à ces familles recomposées?
Alors, je dois vous dire, même si ça va vous surprendre, qu'en près de 27 ans de carrière, je n'ai reçu que 2 demandes de consultation précisément sur ce sujet.
Mais la demande, d'accord, je comprends très bien, la demande précise sur ce sujet. Mais j'imagine que quand bien même la demande n'est pas sur ce sujet-là, on arrive finalement à ce problème-là.
Oui, on y arrive de manière très détournée, très 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 détournée. Et parce qu'il y a probablement un enfant qui va un peu plus mal qu'un autre, ou qui accepte moins bien la présence d'un beau-père, entre guillemets, mais de manière vraiment très détournée. C'est pas la demande principale.
Et quels sont les conseils que vous êtes amené à donner?
Et concernant en cas de conflit, alors?
Oui, en cas de conflit, oui. Alors, si ça se passe bien, pas besoin de donner de conseils.
Exact. En cas de conflit, bon, écoutez, généralement, on demande de bien comprendre la nature du problème, c'est-à-dire que les parents doivent bien comprendre ce qui se passe l'enfant, et bon, à partir de là, on va essayer de dédramatiser ou de réduire les zones de tension, mais comment dirais-je, les enfants sont parlent très peu de ces sujets.
Oui.
Je parle très très peu. C'est vraiment le parent qui doit venir avec le problème.
Et je voudrais vous faire réagir là-dessus, docteur Christophe-Auré, parce que c'est intéressant ce que dit Gladys Tarven. Là, la plainte, elle arrive parce que l'enfant va pas bien.
Oui.
Est-ce que c'est effectivement comme ça au début que vous êtes consulté, ou est-ce que vous êtes consulté directement parce que les parents eux-mêmes le vivent mal?
De façon, enfin, pour ma part, dans ma pratique, c'est beaucoup plus les adultes. Et en fait, pour être honnête, beaucoup plus les belles-mères qui viennent consulter par rapport à une difficulté. Alors, ça peut être vraiment un vécu dépressif, parfois profond, avoir essayé pendant des années et des années de s'ajuster à une situation qui ne trouve pas aucune résolution, d'avoir essayé peut-être pendant des années et des années à trouver sa place auprès de d'adolescents qui lui refusent farouchement la place qu'elle a, qui sait épuisée depuis des années à essayer que tout fonctionne bien, que la famille soit harmonieuse, que les liens se pacifient, et qui n'y arrive pas, et qui vraiment finalement arrive à avoir un gros questionnement sur l'estime d'elle-même.
De l'adulte que
c'est plus la plainte de l'adulte, mais je suis un peu biaisé parce que je vois peu d'enfants, mais de toute façon, il y a toujours, à un moment donné ou non, à un autre, une incidence sur les enfants. Et cette plainte des enfants remonte via les adultes.
Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez beaucoup plus de femmes qui viennent consulter. Ouais. Donc, ma question derrière, c'est est-ce que c'est... J'ai un peu posé cette question au début. Est-ce que c'est plus difficile pour les belles-mères que pour les beaux-pères, ou est-ce que c'est parce que les femmes, quand ça va pas, acceptent plus facilement d'aller se faire aider que les hommes? Ou j'ai tort de dire ça?
Il y a cette composante-là, d'une plus forte propension à aller chercher de l'aide. Mais il y a aussi le fait que, de façon générale, hein, ça peut être caricatural, mais de façon générale, la belle-mère investit beaucoup plus ce rôle que le beau-père. Elle y met beaucoup plus de ce qu'elle est, presque même de son identité, de sa valeur personnelle. Il faut que je réussisse à créer de l'harmonie dans cette famille-là. Sinon, ça veut dire quelque chose de négatif sur moi, d'une incapacité que j'ai en tant que personne qui sait y faire avec les relations humaines. Le père, le beau-père, il a moins cette pression. Il se positionne moins comme celui qui va être le pacificateur, celui qui va harmoniser. C'est pas qu'il s'en fout un petit peu, mais il prend beaucoup plus de distance et donc se met beaucoup moins la pression.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que le quotidien, c'est plus les femmes? De fait,
aussi,
on
mais
sait
bien
que,
sûr,
je suis désolée, les courses, le ménage,
l'organisation des vacances, des réunions de famille et tout.
Donc c'est plus facile pour le père d'être un peu détendu, relax derrière.
Exactement. Donc ça explique vraiment pourquoi les mères et les belles-mères se retrouvent au cœur de la tourmente parfois de la famille recomposée.
Vous avez envie de rajouter quelque chose, Gladys Tarven, là-dessus?
Bon, je serais en grande partie d'accord avec lui. Et en Haïti aussi, ce sont les femmes qui héritent en fait de toutes les fonctions familiales importantes, justement, de l'éducation, les décisions en termes de collage, enfin, d'école plutôt que de collage, tout ce qui concerne les décisions principales.
C'est elle qui gère tout. Oui. C'est elle qui gère tout, et donc c'est encore plus compliqué pour elle. Merci beaucoup, Gladys Tarven. Je rappelle que vous êtes psychologue à Port-au-Prince, en Haïti. Je voulais juste vous lire, docteur Christophe Fauré, le message que nous a laissé Aimé à Béché au Tchad. On a essayé de le joindre tout à l'heure dans la première partie de l'émission, et la ligne téléphonique était mauvaise, mais j'aimerais bien vous lire parce que c'est le point de vue côté enfant, et ça m'intéressait qu'on entende ça. Il dit: ma mère avait divorcé de mon père quand on était tout petit. Plus tard, il s'est remarié avec une femme qui avait déjà des enfants, deux filles de 8 et 12 et un garçon de 6, alors que moi j'en avais 9 ans, mon frère et ma sœur 11. Quand ils sont venus vivre à la maison, mon père s'est plus occupé d'eux que de nous. Il leur donnait de l'argent de poche, ils allaient au marché tous ensemble pour leur acheter des jeux, des vêtements, alors que moi, ils me refusaient même un ballon pour jouer au foot. Du coup, je détestais ces enfants, j'avais le sentiment qu'ils avaient pris notre place. Je l'avais dit à mon père, mais il en riait et ne me prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, j'ai grandi, je suis un peu moins en colère. Je pense qu'il avait surtout peur que sa seconde femme le quitte, et c'est pour ça qu'il s'occupait plus d'eux. Mais je n'ai pas toujours de bonnes relations avec mes frères et sœurs adoptifs, et j'aimerais dire aux pères qui nous écoutent que même s'ils prennent une seconde épouse, il ne faut pas qu'ils oublient les enfants qu'ils ont déjà eu. C'est un super témoignage, docteur
Christophe. Mais a raison, dans son analyse. C'était sûrement, là encore, toujours la même chose, la peur de perdre le lien d'amour avec sa compagne qui l'a conduit à oublier, ce qui est un peu tragique quand même, oublier ses propres enfants.
Toujours la peur, ce que vous dites.
Oui, c'est la peur. La peur est là, mais malheureusement, les petits-enfants, le petit garçon qu'il était, ne pouvait pas dire à son papa, « Papa, analyse la peur qui te conduit à favoriser les autres enfants. »
Le rôle du psy, c'est compliqué.
compliqué.
Non, ça, c'est compliqué, oui.
Sylvie Hasbrouck, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur les émotions, entre autres à travers des expositions. Et vous êtes intéressée à un jeu, là.
Oui, je fais un petit
mais
jeu.
Mais oui, c'est vrai que moi, je me dis, le jeu des sept familles, je ne sais pas si les enfants y jouent encore, mais moi, j'y jouais quand j'étais petite. Dans ce jeu des sept familles, il n'y a pas la famille recomposée,
mais
franchement.
Il y aurait trop de cartes dans les mains. Mais ce serait bien de l'inventer. Je propose cette invention. En tout cas, tout ce que j'ai trouvé sur le sujet de la famille recomposée sur Internet s'avère nécessiter un tantinet de concentration tout de même. Donc j'ai effectivement opté pour un quiz pour présenter ma chronique. Claire, c'est plus rigolo. Alors premièrement, Christophe Forêt, Claire Edon, près d'un quart des enfants en famille recomposée vivent avec leur mère et leur beau-père sans demi-frère ou demi-sœur, vrai ou faux ?
Je dirais vrai.
Bravo, d'après une étude de l'INSEE, 740 000 enfants vivent avec maman, contre 200 000 seulement avec leur papa. La palme d'or revient donc encore cette fois à la mère, la première des émotions présentes dans ces familles. Et bizarrement, le stress, l'anxiété multipliée par 3, puisqu'en plus de se faire du souci pour sa progéniture, le remplissage du frigo et les devoirs, les mamans s'inquiètent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le rôle central qu'elles ont à veiller au lien entre les bouts de choux et papa. Deuxièmement, les enfants des familles recomposées quittent le foyer plutôt que les autres, vrai ou faux ?
J'aurais tendance à penser que c'est vrai, oui.
Exactement, ils sont définis comme plus débrouillards, plus autonomes.
Je gagne quoi à la fin ?
Rien.
J'ai tout bon.
Des tas de visites après.
Ouais.
Ils sont plus autonomes, ne dorment plus chez papa-maman après 20 ans en moyenne, toujours d'après l'INSEE. Et l'émotion qu'on emporte dans ses valises, mine de rien, semble être à nouveau la peur, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais la peur de l'échec cette fois, pour les parents séparés, comme pour les enfants. Une peur qui prend plus ou moins de place, mais qui semble ne jamais s'estomper vraiment. Troisième question, dans quel pays d'Europe la loi ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels ?
La France ?
La Suède.
La Suède.
En Angleterre, la loi permet, elle, au tiers qui est présent de partager l'autorité parentale avec les parents, quel que soit le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple recomposé. Et en France, on reste sur la réserve concernant l'avancée des lois. On reste aussi sur la réserve dans les familles même, hein, enfin quand on y arrive, pour laisser la place à l'autre. Et donc là, c'est l'impatience qui est souvent dans les parages. Quatrième et dernière question. Depuis 1990, on parle de progression du modèle de la famille devenu un modèle à prendre sérieusement en compte. À quelle hauteur d'après vous ? 10%, 20%, 30%?
Oh, 30%.
10. D'après une enquête de France 2, mais c'est la chaîne M6 qui produit ce programme, Christophe Forêt, que je vous ai déniché, qui est accessible sur Internet et qui est tout à fait édifiant.
Deux mamans, échange, mari, enfant et maison. Les 4 premiers jours, elles subissent les règles de l'autre famille. Les 4 derniers jours, elles imposent leurs propres règles.
Moi, je comprends jamais pourquoi il y a des gens qui veulent participer à ce genre de jeu.
Ah oui, montrer ses tripes devant des millions de spectateurs.
Et oui, que voulez-vous ? Eh bien, dans ce programme, on s'interroge donc tout à fait sur les fantasmes exploités des téléspectateurs à rêver que l'herbe est peut-être plus verte quand la famille n'est pas la sienne. Mais on ne s'interroge pas du tout sur la mise en scène, loin de la réalité, tellement plus forte en émotion. Avec à chaque fois deux familles particulièrement aux antipodes l'une de l'autre, sinon c'est pas rigolo. Et on retient que passé l'enthousiasme de découvrir un autre genre de quotidien, on est drôlement bien chez soi et co-composé avec les petites habitudes des uns et des autres, c'est aussi fâcheux que valorisant si on y parvient. Le programme est très ancien, mais il est toujours disponible, il rencontre un certain succès. Et en attendant d'en faire des stages d'entraînement, peut-être pour vous Claire, vous noterez que ce sont les mamans qui changent de foyer, encore elles, après avoir obtenu la pilule, un boulot, et donc avoir incité, dit-on, une nouvelle géographie familiale. Elles sont comédiennes, ici dans ce programme, 8 jours chez les voisins, pour vérifier peut-être une fois de plus qu'elles font correctement leur boulot de maman.
La pression sur les mères, non, je voudrais vous faire réagir là-dessus, docteur Christophe Forêt.
La pression sur les mères dans...
Les belles-mères, en fait, ce sentiment d'une pression plus forte sur les femmes que sur les hommes là-dessus.
Clairement, ce que les attentes de notre société sont... beaucoup plus forte parce qu'on leur attribue à tort ou à raison vraiment celle qui va être les fonctions maternantes de apporter la sécurité, apporter le cadre et tout. Et les hommes, c'est une bonne occasion pour eux de se défiler. Oui, c'est dommage de dire ça, hein, vraiment. Je suis malheureux de dire ça, mais c'est vraiment la vérité.
Catherine Solano,
je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que les hommes ont d'autres difficultés. Je me rappelle quand j'étais en médecine, un copain m'a dit : mais toi, tu te dis pas, il faudra que je gagne de l'argent pour entretenir une femme et des enfants. Et c'est vrai que les hommes ont plus, même si les femmes travaillent maintenant, c'est encore considéré comme un deuxième salaire ou comme un appoint, pas comme un salaire qui doit leur permettre d'entretenir
une famille. Docteur Solano, est-ce qu'on pourrait donner le pourcentage d'hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire?
Oh, mais c'est exactement à quoi je pense. C'est à quoi je pense.
C'est quel pourcentage vous l'avez, ce chiffre, Sylvie Hasbrouck? Il est de combien? C'est énorme.
60%. Non, les hommes ne payent pas la pension alimentaire et la plupart ne sont pas poursuivis.
Docteur Forêt.
Ah, je suis consterné. 60%.
Ouais, 60%.
Ah, c'est énorme, oui.
C'est énorme. C'est énorme, oui. Bon, on va arrêter de critiquer les hommes, on en a au téléphone. Marc, bonjour, vous nous appelez de Berlin.
Allô, bonjour.
Oui, on vous écoute, Marc. On est désolé, on était en train de dire du mal des hommes, c'est pas bien.
Non, mais il y a certaines vérités, hein. Il faut le dire. Même si j'en suis, mais il y a certaines vérités, c'est la vérité. Je voulais dire bonjour d'abord à tout le monde, d'abord à l'équipe, et en particulier à Monsieur Juan Gomez.
Mais Juan, c'est l'émission qui précède, là.
J'ai entendu.
Mais je lui transmettrai.
Merci beaucoup. Oui, bon, voilà, j'avais fait un petit résumé.
Racontez-nous ce qui vous dit.
J'ai été marié il y a quelques années, et j'avais eu 2 enfants, et il y a 13 ans de ça, 12 ans de ça, bon, on avait divorcé, je me suis remarié, et j'ai eu aussi 2 enfants avec mon épouse actuelle, et bon, au début c'était un peu divorce, c'était pas aussi facile, et ensuite, avec le temps, doucement, mes enfants ont commencé à revenir à la maison. Mon épouse les a acceptés sans aucun problème, puisqu'elle savait que j'avais 2 enfants avant de... Quand on s'était connus, elle le savait aussi bien. Bon, le problème ne se posait pas. C'était pas un genre de chantage que je lui avais demandé, hein, une garantie. Je lui avais dit, voilà, j'ai 2 enfants, tu m'acceptes avec mes enfants, ou je voudrais pas entendre quelques années après, écoute, c'est tes enfants, c'est ceci, mais bon, bref, le problème n'était pas là. Ça a marché impeccablement, même avec mes enfants, c'était bien. Ils venaient à la maison, avec mes 2 autres enfants, avec leurs frères, c'était... Tout était impeccable, mais...
Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Voilà, je me disais bien, d'abord, c'est pas normal que ça marche aussi bien. Et ensuite, il y a quelques années de ça maintenant, mes enfants, quand ils repartaient à la maison, ils parlaient avec leur mère, ils voyaient comment ça... Ils lui racontaient que ça se passait bien, ils ont fait ça, on est parti ceci, on a fait cela. Donc mon ex, ça l'avait un peu, en quelque sorte... liquide un peu dans la tête, et subitement les enfants ont changé carrément. Je suis redevenu l'ennemi public numéro 1 pour mes enfants,
et c'est la situation aujourd'hui.
Et il y a 2 ans de ça à peu près, bon, ça marchait très bien, je vous l'ai dit, c'était un vrai conte de rêve. Et il y a 2 ans, c'était une petite affaire de rien du tout, une petite affaire médicale. Parce que mon fils devait aller chez le médecin, bon, un adulte devait l'accompagner, il avait 13 ans, mais comme il devait faire un scanner et tout, mais une grande personne devait être avec lui à l'hôpital pour signer.
Et c'est la belle-mère qui est venue?
Non. J'avais demandé à mon ex d'aller avec ses enfants. Elle devait aller avec les enfants, avec mon fils, aller à l'hôpital et tout. Manque de peau, mon fils s'est retrouvé tout seul à l'hôpital. Ensuite, il est revenu chez moi à la maison. Je lui dis, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai pas pu le faire parce que voilà, parce que c'était pas évident d'avoir ce scanner pour mon fils. Et quand je lui dis, mais pourquoi ta mère, elle est pas venue? Il m'a dit, non, j'ai téléphoné à mon ex. Je lui dis, mais attends, elle m'a dit, oui, j'ai pas pu. Bon, ma femme, actuellement, ça l'a révolté.
Et c'est depuis ça que vos enfants, du coup, ne veulent plus vous voir, c'est ça?
Oui. Et voilà, et ensuite, ça, avec ma femme actuelle et mes enfants, c'est une guerre. Bon, parce que,
c'est compliqué. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil là-dessus?
Je ne sais pas si on peut donner des conseils, mais en tout cas, décrypter la situation. Là, on voit, là encore, que la maman a eu peur que ses enfants aiment plus leur belle-mère. Et dans un réflexe qui pourrait être lu comme de la jalousie, mais derrière, il y a vraiment de la peur, elle a actionné le levier de conflit de loyauté qu'on voit souvent dans les familles recomposées. C'est mettre les enfants... alors j'aime pas vraiment l'expression, mais entre guillemets, prendre les enfants en otage, de leur dire, écoutez, soit vous me donnez de l'amour, soit vous donnez à cette autre personne.
Mais si vous mettez à aimer votre belle-mère, ça
voilà,
veut dire que vous m'aimez
vous
plus.
Vous perdez le lien avec moi. Et comme les enfants, c'est extrêmement difficile pour eux de concevoir de perdre leur lien avec leur maman, ils se rallient à elle, même si c'est à leur cœur défendant parce qu'ils aiment beaucoup leur belle-mère, et ils choisissent leur camp, même si ils ne le souhaitent pas. Et là, on voit cette situation-là.
Donc ça, vous avez décrypté la situation, mais quel conseil du coup donner à Marc là-dessus?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est là encore, ça demanderait à
une médiation.
Une médiation. Mmh. C'est toujours la même chose en fait. Hein. La difficulté d'un famille recomposé, c'est qu'on ne se parle plus ou on se parle mal. Et expliquer, montrer aux enfants peut-être qu'il y a une peur chez leur maman et qu'il y a quelque chose de légitime aussi dans l'attitude de leur maman, et que peut-être la maman cesse, peut-être comprenne que c'est très contre-productif de dresser les enfants contre leur père et contre leur belle-mère, parce qu'au bout du compte, ça brise les communications et le potentiel de quelque chose de plus serein, comme apparemment ça s'est passé quelques années auparavant.
Merci beaucoup Marc. En tout cas, ce que je retiens dans ce que vous dites à chaque fois, c'est que l'aide d'une tierce personne, se faire aider,
c'est
paraît absolument indispensable.
Ouais, c'est vraiment utile.
Docteur Catherine Solano, alors après, vous évidemment, vous êtes intéressée au pan sexuel de la question. Voilà. Après un veuvage, une séparation, un divorce, tout le monde ne reste pas seul toute sa vie, heureusement. Après un deuil, on peut avoir envie de recommencer sa vie sexuelle. Après un temps de deuil, pardon, on peut avoir envie de recommencer sa vie sexuelle, et à ce moment-là, ce n'est pas forcément facile. On a été déçu, on a peur de ne pas être à la hauteur. Alors pourquoi ce n'est pas si simple de recommencer sa vie sexuelle?
C'est pas facile après une séparation, un veuvage, un deuil, parce que en fait, on va revivre une première fois. Et bien sûr, ça va pas être la toute première fois, mais ça va être quand même une nouvelle fois avec une nouvelle personne. Donc, comme on a subi une relation qui s'est arrêtée ou qui s'est pas bien passée, on peut se sentir beaucoup plus fragile même que la toute première fois. Alors, je peux rassurer tout le monde, c'est toujours stressant. Et si ça vous arrive, ne vous sentez pas obligé de vous dire quand même avec mon âge, mon expérience des femmes ou mon expérience des hommes, ça va être facile. Non, vous allez être stressé parce que les émotions ne vieillissent pas. Ni l'amour, ni la joie, ni le stress, ni le plaisir, heureusement.
Et pourquoi on est si stressé quand on a quand même de l'expérience?
Eh bien, en fait, je vais reprendre ce que dit Christophe Fauré. En fait, c'est toujours la peur de pas être aimé. Donc, on se dit, il faut que je fasse bonne impression, surtout la première fois. Il faut que je fasse plaisir. Il faut que l'autre estime que je vais être un partenaire valable. Et du coup, on a presque l'impression de passer un entretien d'embauche et on a peur de pas être embauché en CDI, comme on dit en France, en contrat à durée indéterminée. On se dit, je vais peut-être être en contrat à durée déterminée, on va me licencier tout de suite. Donc c'est idiot, évidemment, parce que dans l'amour et dans la sexualité, normalement, c'est une échange et une rencontre. C'est pas une prestation de service. D'ailleurs, même si vous êtes un homme qui rate sa première fois, vous avez une panne, eh bien, votre partenaire peut se dire, il est trop mignon, il est adorable, il devait être très ému. Et finalement, ça sera pas raté au niveau de la rencontre. Au contraire, vous pouvez tout réussir techniquement, mais votre partenaire peut se dire, il est pas très intentionné, il s'occupe que de lui. Ok, ça fonctionne, mais moi, ça m'intéresse pas.
Alors, au-delà de cette question du stress, est-ce que quand on n'a pas eu de relation sexuelle pendant assez longtemps, ça peut finalement moins bien fonctionner?
Eh ben oui, c'est ça la difficulté, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Un homme qui n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, disons plus de 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans, même j'ai eu un patient, ça faisait 7 ans qu'il était seul après son divorce, hein, et bien on peut avoir des érections nettement moins bonnes. Donc, si j'en parle, c'est pas tellement pour stresser les hommes et leur dire si vous recommencez votre vie sexuelle, ça va pas marcher. C'est pour informer les femmes et leur dire, si votre partenaire n'a pas une très bonne érection, s'il marche pas très bien, c'est normal. Il faut relancer la machine. Et je dis souvent aux hommes, vous êtes comme une voiture. Si vous laissez votre voiture au garage pendant 1 an, vous vous attendez pas forcément à ce qu'elle démarre au quart de tour. Pour l'érection, c'est pareil. Et alors, tous les hommes me répondent, et je leur dis oui, mais la masturbation, ça n'y change rien. Ça, vous allez croire que ça fait tourner le moteur, mais c'est vrai pour la mécanique, mais les circuits émotionnels ne sont pas du tout les mêmes que dans rapport à deux. Donc, même avec la pratique de la masturbation, ça redémarre pas au quart de tour.
Et quel conseil donner aux hommes si justement ce premier rapport sexuel est un peu raté?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut insister. L'idéal, à mon sens, c'est de dire à votre partenaire, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel. Je sais pas si je vais être tellement à la hauteur, mais t'en fais pas, c'est peut-être normal au début. Il y a des chances qu'elles se disent ouf, moi je me dis la même chose. Ouais. Donc à deux, on peut se soutenir. Bon, si vraiment ça marche pas au bout de plusieurs fois, parce que ça peut quand même arriver, à ce moment-là, ça serait bien d'aller voir un médecin qui vous prescrira un médicament un peu comme le Viagra ou équivalent. Ça joue un petit peu le rôle de starter, vous voyez, comme pour une voiture, et donc après ça redémarre. Et puis, il faut pas s'étonner aussi si quand vous recommencez votre vie sexuelle, vous avez une éjaculation précoce. C'est normal, quand on espace les rapports, on a une éjaculation précoce au début. Et quand on reprend un rythme un peu plus régulier, bah ça s'arrange.
Et pour les femmes qui recommencent leur vie sexuelle, bah évidemment, ne parlons pas que des hommes.
Voilà. Alors pour les femmes, mais j'ai quand même parlé des femmes par rapport aux hommes, mais c'est un peu moins difficile, j'ai l'impression, parce qu'elles ont moins peur de pas réussir le rapport sexuel sur le plan technique. Bien sûr, il y a quand même des femmes qui ont une moins bonne lubrification au début, parce que c'est l'équivalent de l'érection chez les hommes, mais ça revient aussi en pratiquant. Et puis, ce qui se passe, c'est quand même que les femmes ont plus souvent peur de ne pas plaire, de se dire je vais pas lui plaire, mais il faut bien qu'elle se rende compte que si elle pouvait lire dans la tête de leur partenaire, il se dit pas du tout, est-ce que cette femme va vraiment me plaire? Pas du tout, il se dit, est-ce qu'elle va me trouver à la hauteur pourvu que je sois pas ridicule devant elle? Donc il faut exactement. Qu'elle prenne conscience qu'il est anxieux. Exactement. Et je vois que ça fait
exactement. Exactement.
Et donc, si on arrive à se parler en sourire, ben on se trouve à égalité, on se donne de l'affection, de l'amour et pas du stress.
Et rapidement, sans parler forcément que de techniques sexuelles, mais sans gros problème, on peut craindre aussi de pas avoir les bons gestes pour donner du plaisir à l'autre parce qu'on le connaît pas.
Ben voilà, oui, tout à fait. Et là, je vous rassure tout de suite, la première fois, ben vous allez être nul parce que vous connaissez pas l'autre, vous savez pas ce qu'il aime pas. Il sait pas ce que vous aimez, bah ça va peut-être pas être génial, mais vous allez suivre votre instinct, puis la prochaine fois ça sera mieux et de mieux en mieux, donc je vous souhaite que ça dure.
J'aime bien vos conseils, docteur Catherine Solano. On les retrouve toujours sur le blog de l'émission, le site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Docteur Christophe Auré, merci, ça a été un plaisir merci. De vous recevoir. Vous êtes venu avec 4 livres à faire gagner pour les auditeurs, comme d'habitude. Vous retrouvez toute la ligne à suivre sur la page Facebook de l'émission, votre livre Comment t'aimer toi et tes enfants, le défi de la famille recomposée aux éditions Albin Michel. Et lundi, vous retrouverez Sandrine Mercier. Je pars en vacances.